Oui, mais du coup, j'en profite pour poser ma première question et on va en prendre d'autres à la suite si vous en avez. C'est justement ce rapport à la rente. Tu as beaucoup insisté, Alice, sur ce lien entre migration, immigration et rente, et éventuellement justement pour les séparer. Moi, j'ai été interpellée parce que tu disais, Hélène, quand tu as parlé notamment des taux de chômage, qui sont quand même assez importants, et je me disais que sans doute, ce qui est aussi important, ce n'est pas seulement l'existence même de la rente, mais ce qui en est fait. Et la politique était extrêmement différente, la politique de Kadhafi avec cette rente-là était extrêmement différente sans doute de ce qu'en a fait l'Arabie Saoudite, notamment sur le fait effectivement que les Libyens étaient, comme tu l'as dit, bon, finalement tous embauchés quelque part mais sans travailler, et où il y avait sans doute ce lien-là où il y avait beaucoup de travail pour les étrangers. Est-ce que pour... Du coup, là, c'est une question béotienne pour l'Arabie Saoudite. Je me demande qu'est-ce qui est fait de cette rente pour les Saoudiens. Pourquoi il y a tant de chômage, finalement? Est-ce qu'il y a, ça rejoint la question d'Ali, des problèmes économiques? Et s'il y a tant de chômage, pourquoi les Saoudiens ne sont pas embauchés, sauf à parler de leurs coûts, comme tu l'avais développé? Et puis, ça c'est une question que je pose à vous deux. Et une deuxième, avant d'ouvrir à d'autres questions si vous en avez, à Ali, pour rejoindre un petit peu l'actualité finalement médiatique. Moi j'ai été interpellée par un point sur lequel tu as insisté, la mondialisation, la diversification de cette immigration. Alors je ne dirais pas peut-être comme toi qu'elle est finalement si récente, mais toi tu l'as vu sur le terrain. Mais sur le plan politique, moi j'avais écrit un article en 2011 disant justement que sur le plan du droit et des politiques, on voyait déjà cette désidéologisation et cette diversification de la politique migratoire, justement où à l'époque, donc dès 2008, dès 2007-2008, on voyait une ouverture, donc là voulue par Kadhafi, vers les Asiatiques, vers l'Europe de l'Est, etc., et moins les Africains, moins les Arabes. Mais toi, tu le vois sur le terrain de changement. Est-ce que c'est pas, alors une question bête, mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que les Africains qui, par exemple, faisaient le ménage, qui nettoyaient dans les rues, et ben eux ont disparu des rues et sont ailleurs ou sont ou se cachent même, comme, voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, mais tu en poses tellement que.
Ah ben non, il y en avait deux.
Enfin, beaucoup qu'il faudrait que... Bah, peut-être que Anna, parce que moi, je... Oui.
Ou alors, vas-y. Comme ça, vous pourrez mesurer vos réponses en fonction du nombre de questions.
Alors, moi, j'ai des questions pour tous les deux. Pour Hélène, tu as parlé de quotas. Alors, je voudrais savoir comment marchent là-bas les quotas. Est-ce que ce sont des quotas par nationalité ou des quotas par secteur d'activité? Puisqu'on on fait rentrer des étrangers...
Des quotas dans les entreprises, pas à l'immigration.
Ah oui, d'accord, pas à l'immigration.
Pas à l'immigration, pas de quotas à l'immigration.
Dans certains secteurs d'activité ou pas?
Non, des quotas par entreprise, en fonction du nombre d'employés dans l'entreprise, il y a un quota d'autorisation d'étrangers par rapport aux nationaux.
D'accord, c'est d'accord. Et la présence des enfants, comment tu l'expliques? Puisque s'il n'y a pas de regroupement familial, je ne comprends pas bien le... leur présence. Alors, pour Ali, j'ai une question qui m'a un peu tarabiscoté là, dans ton intervention, parce que du coup, je ne voyais pas très bien, comme tu es rentré avec vraiment la question du transit et des migrations de transit. Et puis finalement, tu as parlé aussi d'entrepreneurs, de Turcs, de Qataris, d'Asiatiques. Est-ce que tout ça, c'est un même bain, ou est-ce que tu distingues vraiment ceux qui ont des capacités non seulement à s'installer là-bas et à y résider peut-être définitivement, et ceux qui ne sont là que en transit, parce que finalement il y a un melting pot qui prend tout ça, et j'ai pas bien compris. Et puis là, tous les deux, quel impact des fluctuations des prix du pétrole sur la rente, justement, par exemple? Est-ce que ça aggrave la crise économique? Est-ce que ça, je sais pas, est-ce qu'il y a des impacts?
Alors bon, je ne sais pas si tu veux, je vais commencer. Alors, justement, il y a des distinctions qu'il vaut mieux ne pas faire, parce que c'est comme entre réfugiés politiques, économiques, etc. Moi, ce que je dis, c'est que en fait, la Libye est d'abord et avant tout un pays d'immigration. Elle l'était dans les années 60 déjà. Hein, on peut retrouver la trace. C'est vrai que j'aurais peut-être mieux fait de parler d'abord de la Libye avant de parler du contexte particulier, hein, de ce que j'ai vu après. Donc, et en fait, ce qu'il faudrait voir, c'est que ces pays-là étaient des pays d'immigration avant même que se dessinent des routes clandestines et autres. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on pouvait rentrer en Europe jusqu'à la fin des années 80 sans visa. Hein, on oublie. Moi, j'ai pratiqué la France, entre la France et l'Algérie. J'ai jamais demandé de visa. En 86, il me fallait que je dépose mon passeport le matin, je le récupère le soir, jusqu'en 88. Donc, alors que ces pays-là, en fait, avaient donc déjà été et des pays essentiellement d'immigration. Alors maintenant, il est évident qu'il y a des gens, maintenant de plus en plus, qui, eux, veulent transiter, ils peuvent aussi rester un moment travailler, tout comme ceux qui résidaient avec cette, je peux dire, ouverture et peuvent tenter de traverser. Je ne me suis pas intéressé à ces statistiques ces derniers temps, jusqu'en 2008, que ce soit à partir du Maroc ou que ce soit à partir de la Libye, les Maghrébins étaient de façon majoritairement écrasante les migrants qui traversaient. Hein, les Africains, si je peux dire, étaient minoritaires. Le processus de traversée entre le Maghreb et l'Europe, c'est un phénomène strictement et avant tout et après tout maghrébin. Ce sont les Maghrébins qui ont construit, si je peux dire, ces nouvelles routes migratoires. Pour distinguer, donc il y a ça, il y a le fait que les routes migratoires entre l'Afrique et le Maghreb ont été d'abord et avant tout des routes de migration de travail. Hein. Et d'ailleurs, ces pays-là avaient, la Libye ou la Mauritanie, avaient des taux d'immigration beaucoup plus importants que des pays comme la France ou autres. Et ces gens-là migraient vers le Maghreb au moment même où l'Espagne et l'Italie étaient encore donc des pays d'immigration. Maintenant, sur la réalité du terrain, les différents phénomènes, processus sociétaux peuvent se combiner, se croiser, etc., etc. On ne peut pas dire qu'il y a des migrants qu'on classe comme ça, qui sont censés venir travailler, des migrants qui sont censés traverser, etc. Il y a d'abord et avant tout, c'est ce que je voulais démontrer, la Libye, comme tous les autres pays du Maghreb, ont d'abord été avant tout et pendant très longtemps, et depuis les années 60, et avant même que n'apparaissent des routes migratoires clandestines, et avant qu'elles ne soient nécessaires au moment même où on pouvait migrer normalement, si je peux dire, en Europe, les pays du Maghreb étaient des pays d'immigration. C'est ça la réalité première. Et ce que je voulais montrer, c'est que cette réalité se pérennise. C'est pour ça que j'ai voulu prendre ce contexte de guerre civile, etc. Maintenant, avec la fermeture des frontières, il y a d'abord eu des routes maghrébines qui se sont construites. Et les Maghrébins, jusqu'au milieu des années 2000 au moins, c'est vrai que je n'ai plus suivi la fin, étaient de façon écrasante, majoritaire dans ces traversées. Ensuite, bien sûr, des Africains sont venus se greffer. Maintenant, dans la pratique, évidemment, tous les phénomènes peuvent se combiner. C'est comme vouloir faire la distinction entre un migrant économique, un demandeur d'asile, etc. Bon, donc les choses peuvent se combiner. Maintenant, la mondialité. Donc, ça parlant des migrations subsahariennes qui restent parmi les plus importantes en Libye. Hein. On peut dire que peut-être c'est la moitié des migrants, au moins, qui sont des migrants, des migrants subsahariens. Maintenant, évidemment, se greffent d'autres migrants, etc., etc. Et là, je veux répondre à la question de Delphine. Oui, tu as raison, le processus d'asiatisation, etc., il a commencé avant, si je peux dire, mais il était timide. Et la libéralisation, hein, la encore, si je peux dire, encore plus plus ouvert, mais jusqu'à la veille des années 2011, on commençait déjà à avoir des Asiatiques, etc. Mais encore, c'était, si je peux dire, dans des secteurs où l'État intervenait, hein, tout comme pour les gens d'Europe de l'Est, c'était dans la santé, dans certains secteurs bien particuliers. Mais maintenant, c'est qu'en fait, on les trouve, si je peux dire, partout. Hein. Et je ne pense pas que ce soit parce que les migrants subsahariens
sont
les migrants subsahariens sont là, etc. Mais en fait, ce sont ceux qui font les tâches les plus subalternes. Par exemple, les Asiatiques, quand ils sont dans les trucs des éboueurs, c'est à travers des petites sociétés privées, très performantes, etc., etc. Mais vous allez trouver le migrant subsaharien, lui, continue à faire le ménage dans les maisons, dans les ruelles, etc., etc. Mais dans les hôtels et autres, c'est plutôt l'Asiatique. Hein. Ce n'est qu'un homme de ménage comme l'était le subsaharien. Et je pense que effectivement, la libéralisation et l'exigence de qualité et l'intervention de promoteurs de la migration privée et à la base a beaucoup participé, si je peux dire, a beaucoup participé à cela. Voilà. Donc, voilà. Alors, pourquoi effectivement la désidéologisation, tu as raison, mais moi, ce qui m'interpellait, c'est le fait qu'actuellement, les entrepreneurs de la migration, pour l'essentiel, c'est des frères musulmans. Hein, et comment ce sont ceux-là même qui tiennent à l'intérieur de la scène politique nationale un discours de solidarité islamique, de trucs de bienfaisance, etc. Ce sont ceux-là même qui vont chercher des noms, hein, des noms musulmans. Et donc, effectivement, ça traduit effectivement une désidéologisation poussée. Voilà.
Sur le chômage, en fait, le discours de l'État, là, je cherchais le papier qui a été publié en 2009 qui s'appelle The Long Term Strategy for National Employment et tout ça, publié par l'État saoudien, c'est que l'emploi dans le secteur public a approché la saturation, en fait. C'est un secteur public qui est relativement pléthorique et qui a absorbé une bonne partie de l'augmentation de la main-d'œuvre saoudienne dans les années 80 et 90, avec lié à une croissance démographique très, très importante. En revanche, l'État lui-même constate qu'il y a a growing incompatibility between outputs of the education and training systems and requirements for development. Leading to structural employment among Saudis. Donc il y a une inadéquation entre l'acquisition des compétences, le système d'éducation et les besoins du marché du travail, notamment sur le secteur privé. Alors après, sur les données qu'on a, c'est très intéressant parce que le même rapport donne des données très intéressantes sur l'emploi et la main-d'œuvre, en montrant qu'il y a une baisse drastique des taux de chômage entre 2004 et projeté à 2019, enfin 2014, enfin jusqu'en 2019, on va dire, avec un passage de taux de chômage à 7 points jusqu'à 0,5 points, voire 0 en 2024. Quoi. Alors que la réévaluation qui a été faite au début du printemps arabe, donc hors de la planification quinquennale saoudienne, c'était voilà, ben non, il y a 12% de chômage. Donc il y a eu un retour sur les statistiques un peu. On va dire wishful thinking du département de la planification, enfin du ministère de la planification et de l'économie, qui a dit ben oui, on aimerait bien que ça baisse, mais ça baisse pas. Et le vecteur de baisse du taux de chômage, il est essentiellement dû à la promotion de l'emploi féminin, c'est-à-dire que on passe d'une participation ultra faible des femmes au marché du travail à un début de participation des femmes au marché du travail. C'est ça qui fait baisser le chômage. Mais comme on a un nombre de jeunes qui est complètement démesuré qui arrive sur le marché du travail tous les ans, enfin c'est énorme, hein, la croissance de la population saoudienne, c'est du jamais vu. Ils sont, c'est intéressant démographiquement parce que c'est un pays qui a un revenu de pays développé et qui est en en transition démographique uniquement par la natalité. La mortalité a déjà chuté il y a longtemps, mais la natalité a continué à augmenter de manière complètement exponentielle du fait des politiques natalistes, alors que la mortalité avait déjà chuté. Donc on a une explosion démographique en Arabie qui est déjà finie en fait dans d'autres monarchies du Golfe. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon, là, les taux ont baissé à nouveau, les taux de fertilité, etc., notamment avec l'accès des femmes au marché du travail. Mais bon, c'est quand même une spécificité, c'est un impact démographique, c'est-à-dire qu'il n'y a nulle part ce type de modèle. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien pourquoi les démographes ne sont pas plus excités par ce cas-là. Donc voilà, donc il y a ça. En fait, c'est une bête idée d'inadéquation du marché du travail. En sachant que quand même par rapport à d'autres États, donc non, c'est les Émirats qui sont le pays le plus peuplé, pas le Koweït après l'Arabie, mais l'équilibre démographique entre les nationaux et les étrangers, il est de je sais pas 600 ou 700 000 pour les Émiratis et ça dépend des comptes entre 6 et 8 millions pour la population globale, ça veut dire qu'il y a 7 millions d'étrangers quoi. Mmh. Donc tu vois, les déséquilibres par rapport à Koweït, où c'est pas aussi fort le déséquilibre, ouais. Où t'as 4 millions de population, mais t'as je sais plus combien, faut regarder mes slides. Mais
quand tu parles le plus peuplé par les nationaux.
Non,
justement, global. Moi j'avais pris les nationaux, c'est pour ça que.
Ouais, mais d'accord, et donc effectivement pour les.
Parce que ce sont ceux censés profiter de la rente.
Voilà. Mais bon, en l'occurrence, le Koweït, c'était. Koweït, c'est 4 millions de population globale, 1 million environ de citoyens et 1,2 million de citoyens, 2,7 pour les étrangers. Les Émirats, c'est 8 millions, 7 millions pour les étrangers, un tout petit million pour les nationaux. Et l'Arabie, c'est 30 millions et 20 millions de citoyens et 10 millions d'étrangers. Donc, le Qatar, évidemment, on n'a pas les données globales. Hein. Donc ça c'est la réponse effectivement la capacité d'absorption du secteur public, ça c'est un truc qui s'est vite arrivé à saturation dans les années 90. Par ailleurs dans le secteur privé, quand on regarde un peu, mais ça a été pas du tout étudié par nos collègues économistes qui veulent pas faire d'empirique en Arabie ou qui peuvent pas, c'est que ce qu'on voit c'est que les Saoudiens dans le secteur privé, ils sont soit dans des TPE des très petites entreprises commerciales, artisanat aussi, parce que faut pas oublier que l'Arabie Saoudite c'est un pays où il y a des classes sociales, où il y a des classes populaires, où il y a des pauvres, il y a des populations rurales qui sont saoudiennes dans plein de régions, c'est un très grand pays avec une diversité de population très très forte. Certes il y a 20 000 personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle la famille royale, c'est un réseau étendu de notabilité monarchique, mais il y a aussi plein d'autres types de populations. Il y a des classes populaires urbaines, donc TPE, ou alors dans les moyennes et grandes entreprises du secteur privé, vous avez les Saoudiens surtout dans les postes de management supérieur et intermédiaire, et assez peu, enfin supérieur, et peu dans les professions intermédiaires, et par exemple dans le secteur du bâtiment, ça se voit très bien, mais du management... en haut de la pyramide de responsabilité qui est saoudien, mais aussi pour des raisons juridiques, parce que la kafala, c'est pas seulement une régulation de l'introduction de garants saoudiens dans la gestion de l'immigration, mais c'est aussi ça relève du droit commercial. C'est-à-dire que pour toute forme d'activité économique en Arabie Saoudite, on a besoin d'un partenaire légal qui soit saoudien. C'est-à-dire que quand on crée une boîte, il faut avoir un partenaire majoritaire saoudien. Donc ça donne l'occasion à beaucoup d'entreprises de conseils juridiques et financiers de monter des dispositifs légaux en termes de droit commercial tout à fait ubuesque et amusant. Mais ça veut dire qu'il y a toujours un saoudien nécessaire par droit. Et alors, de fait, il y a eu une saoudisation de certains aspects du management, par exemple, dans le BTP. Mais quand on regarde le management intermédiaire ou bien sûr les ouvriers, là, c'est que des étrangers. Dans le commerce de détail, c'était le cas aussi. Le commerce de gros, et finalement, et ça, c'est en train un peu de changer avec ces efforts de saoudisation. Et surtout...
une pression accrue sur les ménages des classes populaires saoudiennes pour travailler, quoi. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la rente fait plus son travail ? C'est pas tellement le problème, parce que vous allez me dire, si on regarde le fonds souverain saoudien, on n'a pas l'impression qu'il y a un appauvrissement. Mais quand même, il y a eu une diminution des ressources pour l'État de la rente dans les années 80 avec la rechute des prix du pétrole. Et surtout, quand même, les mécanismes de distribution de la rente, ils sont pas du tout... Enfin, ce que tu disais, c'est intéressant. C'est-à-dire tout le monde est fonctionnaire, c'est-à-dire tout le monde reçoit un salaire anyway.
Voilà.
Dans tous les cas, tu reçois un salaire à la fin du mois.
Dans tous les cas.
Voilà, bon, c'est pas du tout le cas en Arabie.
Voilà, dans tous les cas. Et le problème même en Libye, qui a créé des conflits, c'est qu'on a voulu, en fait, éviter les gens qui ont 3, 4, 5, 6... salaire en faisant un numéro d'immatriculation nationale, mais ça a posé toute la question des communautés marginalisées qui ne pouvaient pas en profiter, tous ceux aussi que Kadhafi avait intégrés qui n'étaient pas libyens dans le cadre de Légion, et c'est ce qui pose aussi la question de toutes ces populations qui viennent du Sud. Oui, mais en même temps, c'est pas excessivement, si je peux dire, suffisant, et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, cette situation d'instabilité, les gens ne pouvaient pas le recevoir, non pas tant parce qu'il n'y avait pas l'argent, mais il y a des problèmes de gestion, de liquidité, etc. Et ça met les gens au travail. Par exemple, les Touaregs, en fait, déjà sans le système rentier, ce n'est pas des populations... c'est le commerce, la guerre, etc. Et bien, évidemment, c'est en train de mettre quand même... des gens au travail. Mais en même temps, le système rentier...
Je vais quand même répondre à la question. Juste pour les enfants, la présence des enfants, c'est très simple. Ils sont nés en Arabie.
Ouais, d'accord.
Parce qu'effectivement, il n'y a pas de...
Il n'y a pas moyen qu'ils obtiennent la nationalité.
Aucun moyen qu'ils obtiennent la nationalité. En revanche, les enfants peuvent être très régulièrement enregistrés sur le permis de résidence de leurs parents jusqu'à leur majorité. Mais ensuite, ils doivent soit devenir travailleurs eux-mêmes, soit partir, ça dépend après, moi j'ai une partie de mon terrain ethnographique il y a longtemps maintenant, avec des enfants d'immigrés africains, et donc il y a différentes stratégies, on part faire des études ailleurs, parfois en Indonésie, parfois en Inde, et puis on revient en Arabie en tant qu'immigrant, alors qu'on est né en Arabie Saoudite et qu'on parle le dialecte Najdi et qu'on est un local, quoi. Donc là, ça crée énormément de frustration, notamment parmi les familles de travailleurs, parmi les familles immigrées moyennement et très qualifiées. J'ai fait des entretiens auprès de jeunes, voire de trentenaires, d'origine pakistanaise ou indienne, qui était née, enfin surtout pakistanaise, qui était née en Arabie Saoudite et qui en fait était dans une situation de frustration vis-à-vis de l'Arabie Saoudite extrêmement forte. C'est le cas énormément pour les familles de classe moyenne arabe non saoudienne. Je pense aux Palestiniens, aux Irakiens, aux Syriens, aux Yéménites. Bien sûr, les Yéménites sont restés dans les classes populaires plutôt. Il n'y a pas vraiment d'ascension sociale. Mais pour les médecins irakiens dont les enfants sont nés en Arabie, qui ont fait des études soit aux États-Unis, soit ailleurs, soit en Égypte, soit parfois en Arabie Saoudite, en payant l'université. L'université est gratuite pour les Saoudiens, mais elle est payante pour les étrangers. Et qui se retrouvent ensuite dans une situation d'immigration avec une déconsidération de leurs compétences sociales en tant que locaux. Donc ça crée de la frustration, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phénomènes d'installation. Après, on peut discuter de la qualité de cette installation, mais pour reprendre des travaux qui ont été menés, il y a du « settlement ». Et c'est l'argument du papier que je suis en train d'écrire, c'est du « illiberal ». Enfin, et c'est la fin aussi d'un autre article que j'ai publié l'an dernier, c'est du « illiberal settlement ». C'est-à-dire que on s'installe, mais sans droit, ni économiques et sociaux, ni politiques, bien sûr. Mais il ne faut pas penser, comme le pensent beaucoup de théoriciens d'immigration, que si on ne donne pas de droit aux gens, ils ne vont pas rester et partir. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin, sociologiquement, c'est faux. Et puis même démographiquement, c'est faux. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à sortir les stats démographiques sur les communautés installées en utilisant l'âge, ce qui n'est quand même pas non plus révolutionnaire quand même pour regarder qu'il y a des deuxièmes générations, on voit qu'il y a des enfants, bon, oh là là, Enfin, je veux dire, ça a vraiment beaucoup, parfois énervé, même certains de mes collègues qui travaillent sur le Golfe, en disant, mais non, c'est faux, il n'y a pas d'installation des migrants, ils sont là de manière temporaire, ils ne restent pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce discours ? Tu es en train de nier la violence de l'exploitation et nier le fait que les gens sont dans des situations dramatiques. Je dis, non, je ne nie rien du tout. J'explique que, malgré tout, les gens, on l'observe, on le voit. Moi, j'ai fait des terrains auprès de gens qui sont deuxième, troisième génération. Et les gens restent. Mmh. Donc après, on en fait ce qu'on veut. Mais c'est un fait social. Je veux dire, au sens durkheimien, c'est statistiquement robuste. Je veux dire, donc si moi, qualitativiste, je suis obligée d'aller chercher des statistiques pour justifier un truc que tout le monde observe. Ce qui est intéressant, c'est que les Saoudiens eux-mêmes le savent. Enfin, je veux dire, c'est un fait social qui est connu comme le loup blanc, quoi. Même dans les organes publics, quand je parle au ministère du Travail ou dans les chambres de commerce, les gens qui luttaient contre l'imposition d'une limitation dans la durée de la résidence légale, je disais, bah oui, et puis surtout, il y a quand même tous ces enfants, toutes ces familles. Ils disaient, bah, bien sûr.
Mais c'est comme en Algérie, pour les migrants subsahariens, statistiquement, dans une ville comme Tamanrasset, il n'y en avait que 2000. Et quand on voit d'autres statistiques, par exemple le plan d'urbanisme et de développement, qui, lui, dit trois quarts, parce qu'il faut faire des raccordements d'eau, etc., trois quarts de la population, c'est des étrangers. Mmh. Ou les Chinatown, qui existent maintenant, oui, réellement. Bien sûr. Statistiquement, même le gouvernement chinois était contre l'installation de ces trucs, à côté de l'aéroport d'Alger, dans la plus grande visibilité, et ils ne vivent pas très mal. Parce qu'ils font du commerce informel. Eux n'ont pas besoin de situation, d'avoir un cabinet de médecins ou de trucs. Ils ont besoin de faire du commerce. Et il y a des Chinatown, et Casablanca aussi, ça commence, etc.